Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, nous vous proposons maintenant le verset 214 de la sainte sourate Al-Baqara. Notre frère Mouradam vous en donne la lecture chantée. Vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset rappelle les épreuves que l'homme a à subir avant d'être sauvé grâce à l'appel du messager.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَ والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب صدق الله العلي العظيم.
Pensez-vous vraiment entrer au paradis sans qu'il vous soit arrivé, comme à ceux qui furent avant vous? Rigueur et détresse les avaient touchés, et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager, et avec lui, ceux qui avaient cru se fussent écriés. À quand le secours de Dieu? Quoi? Le secours de Dieu n'est-il pas proche vraiment?
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Très chers amis auditeurs, bonsoir. Bienvenue à l'écoute de Radio Téhéran en ce samedi 19 février 2022. J'ai le grand plaisir de vous présenter dans quelques instants le journal d'information qui sera suivi d'un commentaire politique. Vous aurez ensuite la seconde partie de cette émission. Merci de votre écoute. Restez avec nous. L'Iran et la Russie ont discuté de la situation en Ukraine et des problèmes du Caucase, du Yémen, de la Syrie, de l'Irak et des conjonctures dans la région du Golfe Persique. Un drone du Hezbollah est entré dans le ciel du nord de la Palestine occupée. Des sirènes d'alerte ont été déclenchées et le dôme de fer a été activé. Et des dizaines de morts et des milliers de déplacés par les violences depuis début février dans l'est de la RDC. C'étaient les principaux titres. En voici le journal. L'ambassadeur de la République islamique d'Iran auprès de Russie a rencontré les vice-ministres russes des Affaires étrangères. Les deux parties ont discuté de la situation en Ukraine et des problèmes du Caucase, du Yémen, de la Syrie, de l'Irak et des conjonctures dans la région du Golfe Persique. L'ambassadeur d'Iran à Moscou, Kazem Jalali, a rencontré vendredi 18 février le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Andrei Rudenko, indiquait le ministère russe des Affaires étrangères dans un rapport selon lequel les deux parties ont discuté des questions importantes à l'ordre du jour, notamment la situation en Ukraine et dans le Caucase du Sud. Selon le ministère russe des Affaires étrangères, Kazem Jalali a également rencontré Mikhail Bogdanov, vice-ministre des Affaires étrangères et représentant du président russe pour le Moyen-Orient. Au cours de la réunion, les deux parties ont discuté en détail des questions importantes au Moyen-Orient, en se concentrant sur la situation en Syrie, au Yémen, en Irak et dans la région du Golfe Persique. Des sirènes d'alerte ont retenti vendredi dans plusieurs parties du nord de la Palestine occupée, après qu'un drone du Hezbollah a pénétré le ciel de la zone. L'armée israélienne a déclaré qu'un drone avait pénétré dans l'espace aérien du pays depuis le Liban ce vendredi, déclenchant des sirènes dans certaines parties du nord de la Palestine occupée. Les sirènes d'alarme ont été entendues vers 11h51 et 11h59, heure locale, dans les colonies Rochbina, Atsour, Adjalid et d'autres endroits en Haut-Galilée et le plateau du Golan, et plus précisément en Transjordanie et à Mirom, Adjalid. Dans l'après-midi du vendredi, la résistance islamique du Liban a revendiqué le drone, indiquant qu'il est baptisé Hassan. Dans un communiqué, il a précisé qu'il était en mission de reconnaissance et qu'il a survolé pendant 40 minutes la zone qu'il visait sur une longueur de 70 km dans le nord de la Palestine occupée. Le texte assure que l'appareil est revenu intact à sa base de lancement malgré les tentatives ennemies de l'abattre. Un important mouvement d'avions et d'hélicoptères israéliens a été ensuite constaté dans l'espace aérien israélien à la recherche du drone. Deux heures après avoir activé les sirènes, l'armée israélienne ne sait toujours pas si elle a abattu le drone ou pas. Alors qu'elle a dépêché ses avions et ses hélicoptères et utilisé tous les moyens dont elle dispose pour l'intercepter. Que se passera-t-il si des dizaines de drones sont lancés? Ce scénario est préoccupant, a écrit Al Bittenhausen de la chaîne de télévision israélienne Canal 14. Un enfant est tombé en martyr alors que trois autres ont été blessés dans l'explosion d'une charge abandonnée par les réseaux terroristes dans la ville de Arasta, dans la banlieue de Damas, en Syrie. Dans une déclaration à Sana'a, l'agence de presse officielle syrienne, une source du commandement de la police de la banlieue de Damas, a affirmé qu'une charge abandonnée par les terroristes avait explosé à proximité du cimetière de Arasta, ce qui y a fait un enfant martyr et trois blessés. La source a ajouté que les enfants blessés avaient été hospitalisés à l'hôpital d'Ibn al-Nafis. À Saqqa, dans le nord-est de la Syrie, les habitants des villages, rejoignant les forces gouvernementales, ont empêché un convoi de troupes américaines d'entrer dans leur village et l'ont d'ailleurs forcé à battre en retraite. Les habitants de Karish, dans la ville de Ramishli, à Saqqa, ont empêché le convoi militaire de la coalition américaine d'entrer dans le village. Ils ont lancé des pierres sur trois véhicules militaires américains, les forçant à se retirer de leur village. Les habitants du village de Tal Zahab, dans la banlieue nord de la province de Saqqa, ont également bloqué, il y a quatre jours, un convoi militaire de l'armée américaine dans leur district, le forçant à quitter la région. Le gouvernement de Damas a annoncé à plusieurs reprises qu'il ne reconnaîtrait en rien le déploiement des troupes américaines en Syrie et qu'il ferait tout son possible pour expulser les usurpateurs du pays. Les forces d'occupation israéliennes ont renouvelé vendredi leurs attaques contre les Palestiniens dans la bande de Gaza assiégée. L'agence de presse palestinienne Wafa a rapporté que les forces d'occupation avaient tiré des balles et des bombes à gaz toxiques sur des agriculteurs et des bergers palestiniens à l'est de Khan Younes, dans le sud de la bande de Gaza, les forçant à quitter leurs terres. À Rotzest, la police israélienne a dispersé les manifestants palestiniens. Des journalistes ont observé la police israélienne à cheval chargeant les manifestants pour les disperser dans le quartier occupé de Sheikh Jarrah à Rotzest, où des manifestants ont afflué pour soutenir les Palestiniens menacés d'expulsion par des colons sionistes. Des hommes palestiniens ont posé des tapis sur l'asphalte d'une rue et effectué des prières. Plus tard, des militants qui ont fini par se compter par centaines les ont rejoints pour protester contre les expulsions imminentes. Les échauffourées du vendredi se sont accompagnées de manifestations ailleurs en Cisjordanie occupée. Les Palestiniens ont également affronté les forces israéliennes à Al-Khalil, dans le sud de la Cisjordanie, et à Beïta, dans le nord de la Cisjordanie. À Beïta, les habitants, opposés à un avant-poste israélien érigé sur les terres du village, ont utilisé des lance-pierres pour lancer des pierres sur les forces israéliennes qui ont répondu avec ce que l'armée a appelé des moyens de dispersion des émeutes. L'armée a déclaré qu'aucun soldat n'avait été blessé. Wafa a rapporté que 23 Palestiniens avaient été blessés. Un photographe de l'AFP a été blessé par une balle en caoutchouc tirée par les forces israéliennes. L'artillerie à canon des forces armées ukrainiennes a bombardé les positions de la RPD et de la LPR dans le Donbass pendant toute la nuit, a rapporté la presse russe. Les forces armées ukrainiennes ont mené toute la nuit des frappes d'artillerie lourde sur le territoire du Donbass, contrôlé par les républiques populaires de Lugansk et de Donetsk. Les frappes ont été livrées non seulement avec l'utilisation de mortiers, mais également avec des pièces d'artillerie de gros calibre et, selon un certain nombre de sources, avec l'utilisation de plusieurs systèmes de lance-roquettes de 122 mm. Les coups ont été portés par l'armée ukrainienne presque sur toute la ligne de front. Cela a permis d'infliger des dégâts importants à la première ligne de défense des milices, bien que les forces armées ukrainiennes n'aient pas fait de percée, réalisant apparemment que cela pourrait entraîner des pertes à grande échelle. Alors que toute la partie ouest de la RPD et la partie nord de la LPR ont été soumises à des attaques, les experts affirment que les forces armées ukrainiennes attaquent les républiques autoproclamées depuis exactement un jour. Or, des pauses insignifiantes dans les attaques ont été observées, mais plus tard, avec le début de l'obscurité, les bombardements ont repris. Il convient de noter que selon des informations non confirmées, les forces armées ukrainiennes ont activement utilisé des systèmes de missiles anti-chars, y compris des systèmes de fabrication étrangère, dans le Donbass, où le début d'une évacuation massive de la population civile vers la Russie a été annoncé. L'armée ukrainienne attaquait des installations stratégiques dans le Donbass. Depuis début février, les violences dans l'est de la République démocratique du Congo, RDC, ont fait des dizaines de tués et des milliers de déplacés, a dénoncé vendredi l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, ICER, faisant état de 8 attaques en quelques jours en Ituri. Ces 8 attaques, affectant des personnes déplacées au cours des 10 premiers jours de février, se sont traduites par des exécutions, des enlèvements, des pillages ou des incendies volontaires d'habitations. Les milices à travers les régions orientales de la RDC continuent de cibler les civils déplacés dans un nombre croissant d'attaques mortelles ce mois-ci, a déclaré lors d'un point de presse à Genève Boris Tchechirkov, porte-parole du Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés. Selon l'ONU, au moins 17 personnes, dont 8 enfants, ont notamment été tuées mardi dernier par les milices du groupe armé de la Coopérative pour le développement du Congo. Aux premières heures du 15 février, des combattants de la milice ont massacré ces civils à coups de machette dans la localité de Lanto, dans le territoire de Djougou, a détaillé M. Tchechirkov, relevant qu'une mère et ses deux enfants ont été brûlés vifs lorsque les assaillants ont mis le feu à des habitations. Cette vague de violence fait suite à une attaque particulièrement meurtrière contre le site déplacé de Plaine Savo le 1er février dernier, également dans le territoire de Djougou, en Ituri. Lors de ces incidents, plus de 60 personnes avaient été tuées et 25 000 avaient été contraintes de fuir leur maison. Le ICER appelle les parties à immédiatement arrêter les violences contre les civils, notamment les déplacés, car, malgré l'instauration de l'état de siège par le gouvernement en mai 2021, dans le but de stabiliser la région, les violences et les abus à l'encontre des civils et des personnes déplacées continuent de déstabiliser des pans entiers de la province du Nord Kivu. Selon les Nations Unies, au moins 5,6 millions de personnes sont déplacées en RDC, dont 2,7 millions de personnes entre janvier et novembre 2021. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. Seul le pétrole iranien sauvera l'Europe. Le retour de l'Iran sur les marchés mondiaux pourrait être un moyen simple, rapide et efficace face à la hausse des prix du pétrole, écrit le journal espagnol El Economista. Dans un article sur la hausse des prix du pétrole, ce qui menace l'économie mondiale, le journal espagnol El Economista écrit « Le marché du pétrole est dans un équilibre dangereux. La demande continue d'augmenter fortement, tandis que l'offre reste faible. En conséquence, le niveau des stocks de pétrole a atteint son plus bas niveau ces dernières années et les membres de l'OPEP ont assuré que leur capacité de production de pétrole brut était proche de la normale. En attendant, poursuit le journal, il y a un pays qui fournit le pétrole bien en dessous de son potentiel en raison de sévères restrictions sur ses exportations. C'est l'Iran, dont le retour sur le marché pétrolier pourrait être une aubaine pour le monde. La levée des sanctions contre l'Iran pourrait complètement changer les perspectives du marché pétrolier, récompenser le déficit d'approvisionnement et atténuer la fièvre des prix et les pressions inflationnistes, indique le rapport. L'Iran peut produire jusqu'à 4,5 millions de barils de brut par jour contre 2,5 à 3 millions de barils qu'il produit officiellement à l'heure actuelle. Le brut Brent, en tant que référence mondiale, se négocie à environ 93 $ le baril, un record depuis 2014. La demande de pétrole continue à dépasser l'offre et les réserves diminuent lentement. L'Agence internationale de l'énergie a averti la semaine dernière que les tensions entre l'offre et la demande augmenteraient dans un proche avenir. L'Agence internationale de l'énergie a également augmenté ses prévisions de demande pour 2022, sur la base d'un examen des données historiques de 800 000 barils par jour. La demande mondiale devrait augmenter de 3,2 millions de barils par jour cette année, atteignant un record de 100,6 millions de barils par jour. Selon El Economista, le retour de l'Iran sur les marchés pétroliers peut être une solution simple, rapide et efficace à la hausse des prix. Les analystes estiment qu'un accord avec l'Iran pourrait changer la donne pétrolière et éventuellement ramener la balance à un excédent de 500 000 à 1 million de barils par jour d'ici la mi-2022. Le journal espagnol a également indiqué: les prix du pétrole ont chuté de plus de 3% après quelques semaines de hausse importante qui ont ramené l'or noir à près de 100 dollars le baril. Mais le gouvernement iranien ayant souligné mardi la possibilité de parvenir à court terme à un bon accord sur le nucléaire, si les pays occidentaux respectent leurs engagements, les prix du pétrole brut ont chuté de 93 dollars, a fait remarquer le journal.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission Le Débat. Dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui, nous allons revenir sur ce discours du secrétaire général du Hezbollah libanais, Seyyed Hassan Nasrallah. Seyyed Hassan Nasrallah qui a réaffirmé dans son discours que l'avenir de la région se dirige sur une voie entièrement différente de celle prévue par certains protagonistes régionaux et internes et sur lesquels ils prévoient leurs calculs. Et toujours dans son discours, Seyyed Hassan Nasrallah, s'agissant de ces crises sociétales que traverse le régime israélien, a dit, je cite de le secrétaire général du Hezbollah libanais, dans l'entité de l'occupation, la volonté des Israéliens de supporter davantage les dangers de combat semble se rétracter. Il en est de même pour leur confiance à l'égard de l'armée et des institutions étatiques. De même, l'immigration inverse connaît une nette recrudescence, a souligné Seyyed Hassan Nasrallah. Et plus loin dans son discours s'agissant des capacités militaires de la résistance libanaise, Seyyed Hassan Nasrallah a surtout précisé que la résistance était parvenue à en fait transformer cette menace de proférée par le régime israélien en une opportunité, s'agissant, si vous voulez, de frappes menées contre des positions, si vous voulez, en territoire syrien, en disant que voilà, nous avons transformé les milliers de missiles dont nous disposons en missiles de précision. Seyyed Hassan Nasrallah a fait également un autre point important, comme quoi la résistance libanaise dispose désormais de la technologie de fabriquer des drones sur place. On va vous en parler dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui avec deux invités. J'ai le plaisir d'avoir avec moi au téléphone depuis Bruxelles un géopoliticien belge spécialiste des questions internationales, Monsieur Luc Michel. Luc Michel, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour à vous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Bonjour à vos collègues et à vos téléspectateurs.
Merci beaucoup. Et l'autre invité de l'émission d'aujourd'hui, c'est un juriste français spécialiste des questions internationales qui est avec moi pour cette émission depuis Paris par Skype. Il s'agit de Maître Eliatem. Maître Atem, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour à vous, merci de votre invitation. Mes salutations également à M. Michel et à tous vos téléspectateurs.
Et Maître Atem, comme première question, quelle évaluation portez-vous sur ce récent discours de Seyyed Hassan Nasrallah, secrétaire général du Hezbollah libanais, s'il vous plaît?
Oui, vous savez, Monsieur Nasrallah, il a fait un résumé de la situation actuelle. Autrement dit, il a rappelé des éléments qui sont très importants, à savoir que, premièrement, il y a un mouvement de résistance nationale au Liban, auquel fait partie, ou de quel fait partie donc son parti, c'est-à-dire le Hezbollah, parce que, comme vous l'avez souligné, on parle plutôt de ce qu'on appelle d'un mouvement de résistance, autrement dit des Libanais qui se sont toujours opposés aux attaques et à l'occupation de leur pays par Israël. Il l'a d'ailleurs rappelé, M. Nasrallah, hier dans son discours, que les Libanais, le mouvement de résistance libanaise, est un mouvement défensif et pas du tout offensif. Parce qu'à aucun moment donné, le Liban n'a attaqué Israël. Or, Israël a toujours trouvé des prétextes pour s'attaquer aux frontières libanaises. Et à l'époque, Remo Edé disait que Israël avait une dent ou deux dents, en fait, contre le Liban. Premièrement, parce que sa société et ses institutions sont diamétralement opposées. C'est un peu comme deux lignes parallèles avec une société multiconfessionnelle libanaise qui s'est constituée depuis des milliers d'années. Et donc, ce modèle-là est en opposition à l'ethnocratie israélienne créée par cette idée d'un État simplement pour une ethnie créée, comme d'ailleurs M. Shlomo Sand, l'écrivain israélien, l'avait très bien souligné sur la création, entre guillemets, de ce peuple juif. D'un autre élément aussi dont Israël a une dent contre le Liban, c'est sa richesse en eau, auquel s'est ajouté également ce problème aujourd'hui qui est celui de la découverte donc de pétrole. Donc ce sont les deux éléments qui ont toujours poussé Israël à s'attaquer au Liban, à la société libanaise par l'intermédiaire de toute cette campagne qui s'est faite contre la nation libanaise, qui est une nation plus que millénaire ou doublement donc millénaire. Le Liban est cité d'ailleurs plus de 70 fois dans la Bible. Donc, ça, c'est le premier constat. La deuxième chose, c'est que dans le discours de M. Nasrallah, il a rappelé, compte tenu de cette envie israélienne toujours de mener la guerre, toujours de s'attaquer au Liban, il a montré une formule, je dirais, dissuasive, en disant, écoutez, si vous continuez, si vous voulez nous attaquer, nous sommes en mesure de répondre. Certainement, et c'est là une question qui est très importante pour voter les spectateurs, l'armée libanaise est incapable aujourd'hui, l'armée officielle, d'avoir les armes nécessaires pour s'opposer aux agressions israéliennes. Pour quelle raison? Car les armes, les munitions de l'armée libanaise proviennent des États-Unis. Or, comme vous le savez, les États-Unis ont pour allié principal Israël dans la région et n'a jamais permis à l'armée libanaise d'avoir des armes lui permettant de s'opposer aux agressions israéliennes. Donc, c'est la raison pour laquelle que le mouvement de résistance nationale, comme c'était un mouvement de résistance nationale également en France, a pris en charge, et c'est tout à fait légitime, et un consensus libanais, il y avait un consensus libanais aujourd'hui, les agents israéliens, comme d'ailleurs le reconnaissent les officiels israéliens sur les chaînes il y a deux jours, ou depuis avant-hier, quand ils ont parlé que nous sommes en train d'envoyer de plus en plus, de recruter des agents locaux pour détruire, je dirais, cette résistance libanaise. Alors, le discours était très clair de Sayed Nasrallah en disant, attention, faites attention, c'est que nous sommes capables de transformer déjà les munitions que nous avons pu obtenir d'autres puissances que les Américains, autrement dit par l'Iran, même si l'Iran est incapable aujourd'hui de nous donner des armes beaucoup plus sophistiquées, même si d'autres États, la Russie ou la Chine ou les autres, sont incapables de le faire, nous pouvons transformer nos munitions et puis surtout nos fusées en fusées qui sont beaucoup plus sophistiquées pour pouvoir répliquer, répondre à vos agressions. Deuxièmement, nous sommes prêts aujourd'hui également à construire des drones pour voir, pour vérifier vos capacités militaires et prévenir les attaques. Donc ça, c'est la première partie donc, de son discours. La deuxième partie de son discours, il a rappelé que le Liban et la résistance nationale, c'est un pays qui est défensif, c'est un pays qui est tout à fait pacifique, mais il ne peut que répondre à ces agressions. Et d'ailleurs, comme vous le savez, à plusieurs reprises, c'était le général de Gaulle qui, en 1968, avait dit que tant qu'il était en vie, il ne permettrait jamais à cette entité artificielle, et je reviendrai, c'est la deuxième partie du discours de Saïd Nasrallah, d'attaquer le Liban et de détruire en fait sa société et de s'attaquer également à son aéroport. C'était à l'occasion de l'attaque de cette armée israélienne contre l'aéroport de Beyrouth. La deuxième partie,
Maître Atem, avant en fait de revenir sur cette deuxième partie du discours de Saïd Hassan Nasrallah, permettez-moi d'avoir l'approbation, s'il vous plaît, de Luc Michel également. Je reviendrai vers vous, en fait, plus tard. Luc Michel, venez d'entendre l'analyse de Maître Atem. Votre haute lecture des faits, s'il vous plaît.
Mais le cœur du discours de Nasrallah, c'est qu'il souligne le tournant qu'a été la guerre de 2006 entre Israël, le Hezbollah libanais. C'est en 2006 que le Hezbollah et ses alliés iraniens ont inventé ce qu'on appelle la guerre hybride, qui est la forme moderne de la guerre. À partir de ce moment-là, la guerre classique que dominaient les Israéliens n'a plus été de mise. La caractéristique de cette guerre hybride, c'est la fin de la domination stratégique des États-Unis sur le ciel du Levant, au Liban, en Syrie, etc. Nasrallah évoque les renforcements des capacités de domination du ciel des Libanais, mais également des Syriens et notamment des investissements de leurs alliés russes dans ce domaine. C'est terminé la toute-puissance israélienne dans le ciel. C'est tout terminé. Les menées israéliennes qui étaient menées impunément dans le ciel au-dessus du Liban et au-dessus de la Syrie. Et aujourd'hui, on vient au retour à une forme de parité stratégique telle qu'elle existait lors de l'ancienne guerre froide entre la Syrie de Hafez el-Assad, allié de l'Union soviétique, et les Israéliens.
Luc Michel, avant en fait de revenir vers Maître Atem, en fait, s'agissant de cette guerre hybride à laquelle venait en fait de faire allusion, Saïd Hassan Nasrallah souligne en fait sur ce point que la résistance est désormais en mesure, si vous voulez, de fabriquer des missiles de précision, également des drones sur place. Ça va changer l'équilibre de force entièrement, n'est-ce pas, Luc Michel?
Guerre moderne, c'est ce qui a changé le visage de la guerre dans plusieurs théâtres d'opération. Par exemple, entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie dans la guerre du Karabakh, puisque la fourniture par les Israéliens cette fois-là et les Turcs de drones à l'Azerbaïdjan a permis à celle-là de reconquérir des territoires. La guerre des drones, elle domine toutes les guerres modernes. Et malheureusement, ça a longtemps été une prérogative, bien entendu, des Occidentaux. Mais maintenant, le bloc de l'Est est capable de fournir des drones performants. On l'a vu, par exemple, dans la guerre de sécession du Tigré entre l'Éthiopie et les alliés par procuration de l'Occident, que seront le soi-disant Front de Libération du Tigré. Là-bas, c'est l'Iran qui a fourni des drones à l'Éthiopie, mais c'est également d'autres partenaires. Cela change complètement le visage de la guerre et cela fait que la domination du ciel par l'aviation classique n'est plus un élément déterminant.
Maître Atem, la parole est à vous pour en fait nous parler de cette deuxième partie du discours de Saïd Hassan Nasrallah, s'il vous plaît.
Tout à fait, mais si vous le permettez, j'ai une petite remarque, si je le permets, en ce qui concerne les propos donc, de M. Michel quand il a parlé de la guerre entre Israël et le Hezbollah. Moi, je dirais que Israël, c'était pas son objectif, n'a jamais été simplement le Hezbollah, parce que en 1968, le Hezbollah était inexistant. En 1975, le Hezbollah était inexistant. Même en 1982, son objectif, quand Israël est venu, il a occupé le Liban. Le Hezbollah était une petite milice, ce n'était pas encore l'une des forces les plus importantes du mouvement de résistance nationale. Donc, je reviens à ce point qui est assez important. Israël a toujours une velléité vis-à-vis donc de la société libanaise multiconfessionnelle et puis surtout ce modèle libanais qui est à l'opposé de ce modèle artificiel israélien, de ce qu'on appelle l'entité israélienne. La deuxième partie donc, du discours de M. Nasrallah est la première fois d'ailleurs depuis donc, le début donc, de ses interventions politiques jusqu'à aujourd'hui, où il a évoqué un élément qui est très important, qui n'est pas un secret de Polichinelle, et c'est d'ailleurs l'une des grandes préoccupations des Israéliens ou des sionistes, je dirais, c'est cette fameuse création artificielle d'une entité, d'une nation israélienne. Parce qu'il faut tout d'abord, il faut rappeler en deux mots ce fameux débat qui a eu lieu depuis le début, le départ, vous savez, de cette notion donc du judaïsme politique qui est, je dirais, qui est antérieure au sionisme qui a débuté au début du 19e siècle, avant l'arrivée donc officielle donc du sionisme, c'est-à-dire à savoir si le judaïsme est une religion ou une nation ou un peuple. Donc Shlomo Sand le rappelle dans son ouvrage. Il a fallu donc la création officiellement sioniste internationale pour continuer ce qu'on a appelé l'entité sioniste et puis qui est un ramassis, je dirais, de peuples qui sont venus de tout le monde. Et c'est pour cette raison, d'ailleurs, la meilleure solution, c'est pour régler ce problème-là, et on le voit, c'est une solution naturelle, c'est une réémigration donc, de ces émigrés qui sont venus par des poussées de fondamentalisme et par des opérations qui ont été menées par les services de l'Irgun à l'époque, la Haganah, et puis tout cela, si vous voulez, pour pousser ces différentes populations à aller en Palestine et créer cette entité en poussant donc les autochtones, donc les Palestiniens, surtout les chrétiens, les autres communautés, à quitter le territoire. On a assisté par la suite également à une déportation après la Seconde Guerre mondiale qui a renforcé ce mouvement sioniste. Or, aujourd'hui, tous les savants, tous les penseurs, tous les gens donc, qui sont en train de travailler sur ces questions, y compris des Israéliens, il a cité M. Netanyahou, se posent des questions sur de cette entité artificielle qui est constituée de plusieurs peuples, d'ailleurs, qui viennent de plusieurs pays. Parce que moi, je considère aujourd'hui un Français qui est de religion juive comme un Français et non pas comme un Israélien. Et aujourd'hui, nous avons même un candidat qui est de religion juive à la présidence de la République. Donc tous ces peuples-là doivent retourner à leur pays d'origine. Ils sont en train de le faire, comme l'a rappelé M. Nasrallah, en se fondant en fait sur des documents, sur le dossier en fait d'Israël. Et ce que d'ailleurs les officiels israéliens et même les télévisions ont reconnu chez lui, c'est cette force en fait d'expliquer la situation en Israël. Donc nous assistons aujourd'hui à la fin, à l'apocalypse, je dirais, de cette entité artificielle qui est en train de se disloquer, et elle se disloquera de plus en plus, et c'est la raison pour laquelle M. Nasrallah a rappelé que le Liban n'attaquera jamais Israël, parce que Israël est en train, si vous voulez, de s'attaquer de l'intérieur avec cette dislocation de cette société artificielle, de ces différents problèmes, des problèmes sociologiques, mais aussi des problèmes économiques, et puis elle est en train, je dirais, de s'effondrer progressivement. Alors, selon les religieux juifs, donc cette notion messianique, on dit toujours que les juifs n'ont jamais pu obtenir un État ou constituer un État plus de 80 ans. Bon, ce sont des considérations religieuses que je mettrai moi-même de côté, mais réellement, d'un point de vue sociologique et d'un point de vue politique, tout le monde le sait, et je dirais, avec tout le respect que je dois à M. Nasrallah, bon, il n'a pas inventé le tiède. Tout le monde sait que Israël, cette entité sioniste, est en train de plus en plus donc, de s'effondrer, surtout avec ces nouvelles Merci. Générations qui ne comprennent pas pourquoi maintenir cet artifice chez eux.
Monsieur Luc Michel, en fait, c'est Hassan Nasrallah a fait allusion, comme l'a dit tout à l'heure Maître Atem, à cette immigration inverse qui, en fait, commence à s'accélérer nettement, qui connaît en fait une recrudescence, pour employer en fait l'expression de Seyyed Hassan Nasrallah. Et Maître Atem dit que voilà, il y a désormais ceux qui s'interrogent, si vous voulez, sur la survie de l'entité israélienne. Qu'est-ce que vous en pensez, Luc Michel?
Ben écoutez, la question du devenir d'Israël, elle est posée par le sionisme lui-même. Lorsque nous étions dans les années 1980, il y avait eu un grand débat parmi les historiens israéliens. C'était une comparaison entre le devenir d'Israël et la disparition de ce qu'on appelait les États francs du Levant, c'est-à-dire les États créés par les chrétiens au moment des croisades qui ont existé entre 1999, la première croisade et la prise de Jérusalem par Godefroy de Bouillon, et la disparition en 1270 des derniers États chrétiens. Les historiens israéliens disaient que probablement il n'était pas impossible qu'Israël connaisse le garçon, c'est-à-dire qu'on rejette les Israéliens à la mer, comme les Francs avaient été rejetés à la mer. Mais ce qui a permis justement la remise en question de devenir israélien, c'est précisément l'émergence du Hezbollah en 2010 comme une grande puissance militaire et la guerre hybride. Justement, la guerre hybride, parce qu'elle est une guerre qui met en cause, c'est une guerre qui est pratiquée dans tous les domaines, y compris dans les domaines historique, existentiel, économique et humain. C'est ce qui remet en cause Israël, évidemment, exactement comme la guerre hybride russe remet en cause la domination occidentale en Afrique et en Europe centrale particulièrement. C'est cela qui est le facteur déterminant. Et l'histoire retiendra qu'au départ d'une guerre qui est menée par les Israéliens contre l'existence même du Liban, c'est un mouvement politico-militaire, le Hezbollah, qui en émergeant va remettre lui en cause l'existence même d'Israël.
Et Maître Atem, nous avons en fait une minute devant nous. Le mot de la fin vous appartient, s'il vous plaît.
Oui, alors le mot de la fin est très simple. C'est qu'aujourd'hui, il y a une opposition entre deux modèles et ça se voit et c'est ce que M. Nasrallah a très bien souligné. Nous avons un modèle ethnocratique artificiel qui est créé par le sionisme et je dirais même avant le sionisme par le judaïsme politique et vous avez en face une nation avec un peuple qui existe, qui s'est formé à travers les siècles, c'est-à-dire cette entité libanaise qui depuis même avant les croisés, depuis depuis l'existence en fait de la Samarie et d'Israël existait déjà, avec ce brassage de civilisation et de culture qui a créé cette culture particulière libanaise et qui est, je dirais, l'épine au pied de cette entité israélienne qui cherche par tous les moyens à assassiner la nation libanaise.
Merci infiniment de Maître Eli Atem d'avoir été avec moi pour cette émission depuis Paris par Skype. Mes vifs remerciements vont également à vous, Luc Michel, géopoliticien belge spécialiste des questions internationales, d'avoir été avec moi pour cette émission au téléphone depuis Bruxelles. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite à vous toutes et tous une excellente journée. Je vous dis au revoir, amis, à très bientôt. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission Focus. Le guide suprême de la révolution islamique, l'ayatollah Khamenei, a une fois de plus souligné que l'Iran n'avait jamais cherché à se doter d'armes nucléaires. Les ennemis savent que nous ne cherchons pas cela, que nous ne recherchons pas une arme nucléaire. Nous cherchons à tirer parti de l'énergie nucléaire de manière pacifique. Ils le savent. Et le guide suprême de la révolution islamique de préciser, de jour en jour, le monde devient de plus en plus dépendant de l'énergie nucléaire. Tôt ou tard, nous aussi, nous aurons un besoin inévitable de l'énergie nucléaire pacifique. Si nous n'y pensons pas aujourd'hui, ce sera tard demain et nos mains seront vides. Et l'ayatollah Khamenei de faire remarquer, ils savent que le programme nucléaire iranien est pacifique. Ils font pourtant des allégations absurdes pour insinuer que l'Iran est proche de produire la bombe. Ils veulent que la nation iranienne soit confrontée à des problèmes quand demain elle aura besoin de cette énergie. Pour ce qui est du plan global d'action conjoint, l'accord sur le nucléaire en 2015 et en 2016, mon objection était que certains points devraient être observés dans le plan global d'action conjoint pour qu'aucun autre problème ne se pose plus tard. Eh bien, certains d'entre eux ont été ignorés, donnant lieu à ces problèmes postérieurs dont on est témoin. Il y a deux outils à préciser. Le guide suprême de la révolution islamique entre les mains de l'ennemi pour séparer le peuple de l'ordre islamique et changer la pensée et la façon de penser des gens. L'hostilité médiatique et l'hostilité en fait économique. Les jeunes doivent s'y opposer. La nation iranienne doit s'opposer à ces deux attitudes. Sur le plan diplomatique, nos estimés frères révolutionnaires travaillent pour la levée des sanctions et convaincre l'autre partie. C'est bien, mais le plus important est d'annuler les sanctions via la production nationale, le dynamisme économique et l'économie basée sur le savoir. Et le guide suprême de la révolution islamique, plus loin dans ses propos, a précisé « Le slogan de la révolution est de résister aux puissances arrogantes. Dieu soit loué, la nation iranienne a été bénie par cette résistance et qui a eu en fait son impact dans la région. Aujourd'hui, la présence de l'arrogance a été brisée. » Dans la région et les nations se prononcent contre les États-Unis. Le fait que le front de la résistance ait fait ainsi preuve d'inimitié contre la République islamique et la nation révolutionnaire d'Iran prouve que la révolution est vivante. Si ce n'était pas pour la révolution, il n'aurait pas montré autant de méchanceté contre la nation iranienne. La révolution est vivante veut dire l'attachement de nouvelles générations du pays aux idéaux de la révolution, à savoir indépendance, dignité, bien-être et justice sociale, établissement de la société islamique et enfin réalisation d'une nouvelle civilisation islamique. La victoire de la révolution islamique était due à la présence du peuple dans l'arène, a souligné le guide suprême de la révolution islamique sur le champ et dans les rues. Cette révolution n'a pas atteint la victoire par les armes, les jeux politiques ou les rivalités entre les partis, mais par la présence du peuple. Certaines révolutions ont franchi des étapes importantes, mais n'ont pas réussi car leurs dirigeants ou adeptes étaient soit fatigués ou déçus, soit distraits par des loisirs matériels et des conflits internes. Or, la continuité du mouvement est la clé de la victoire de tout acte, a souligné le guide suprême de la révolution islamique. Dans son discours de ce mercredi 16 février, journée de la commémoration du martyr des trois commandants de la résistance islamique, le numéro 1 du Hezbollah libanais, Saïd Hassan Nasrallah, a assuré qu'Israël est en phase de déclin et en voie d'extinction. L'avenir de la région se dirige sur une voie entièrement différente de celle prévue par certains protagonistes régionaux et internes sur lesquels ils prévoient leurs calculs, à l'instar des années 80 et 90, dans la foulée de l'invasion israélienne du Liban, puis des accords d'Oslo. Tous les grands calculs sur lesquels ils avaient misé se sont dilapidés. Quant à nous, nous voyons qu'Israël est en déclin. Il est sur la voie de l'extinction, qui n'est qu'une question de temps, a-t-il déclaré. Revenant sur les trois menaces et défis primordiaux que les centres israéliens avaient énumérés lors de leurs dernières évaluations, il s'est arrêté à l'instar de stratèges israéliens sur la crise sociétale que traversait l'entité sioniste. Dans l'entité de l'occupation, la volonté des Israéliens de supporter davantage les dangers de combat semble se rétracter. Il en est de même pour leur confiance à l'égard de l'armée et des institutions étatiques. De même, l'immigration inverse connaît une nette recrudescence, a-t-il expliqué. Selon lui, tous les efforts déployés auprès des pays arabes en vue de normaliser leurs relations avec Israël ne sont que des moyens pour lui donner une nouvelle chance pour l'aider à sortir de ces crises et à durer. Les compromis politiques et les négociations n'ont aucune perspective. La seule perspective promettante, réelle, sérieuse, est celle qui pourrait aboutir à un résultat est celle de la résistance, a-t-il souligné. Jugeant qu'Israël n'est plus disposé à mener une guerre, compte tenu qu'il sait très bien qu'elle lui coûtera cher. Très cher, c'est Hassan Nasrallah a indiqué qu'Israël a inventé la bataille entre les guerres, laquelle comprend un certain nombre d'opérations de sécuritaires, à l'instar de l'envoi de drones vers la banlieue sud, comme cela s'était passé depuis deux années. Il a cité aussi comme bataille les raids aériens en Syrie qui ont pour but, selon lui, de freiner l'envoi d'armement de qualité à la résistance libanaise depuis la République islamique d'Iran. Il a précisé comment la résistance est parvenue à avorter ses objectifs. Le fait de torpiller les tentatives de transfert d'armes depuis l'Iran au Liban a été une réelle menace pour nous, pour la résistance. Mais comme nous appartenons à l'école qui a pour doctrine de transformer la menace en opportunité, celle qui a été promue par l'imam Khomeini, eh bien, nous avons transformé ce défi en une occasion. Et depuis, nous avons développé nos capacités pour fabriquer sur place ces armements. Nous avons transformé les milliers de missiles dont nous disposons en missiles de précision. Nous n'avons plus besoin de les transporter depuis l'Iran. Et depuis quelques années aussi, nous fabriquons sur place les drones et nous n'avons besoin de les apporter depuis l'Iran, a conclu Saïd Hassan Nasrallah. Selon le Kremlin, l'OTAN mène une agression médiatique contre la Russie. La présidence russe a affirmé que la tension militaire dans la région de Donbass, au sud-est de l'Ukraine, s'est considérablement accentuée au cours de ces derniers temps, qualifiant la situation là-bas de très dangereuse. Le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, a expliqué aux journalistes que les autorités de Kiev avaient mobilisé d'énormes forces sur la ligne de contact avec les deux républiques déclarées unilatéralement de Donetsk et de Lugansk, soulignant en même temps que les représentants de plusieurs États et organisations occidentales dont l'OTAN mène une agression médiatique contre la Russie. Il a qualifié d'accusation infondée les déclarations relatives à la mobilisation et au transfert présumé des soldats russes vers les frontières avec l'Ukraine. C'est la fin de cette émission. Merci infiniment de l'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité à la radio francophone iranienne.